Légende marine, portrait de gens de mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons. Vous allez entrevoir tout un univers, du littoral à la haute mer en passant par le monde sous-marin. Écoutez, vous entendez déjà le bruit de la mer et l'odeur d'iode commence à vous chatouiller les narines. Alors, embarquez avec nous.
Voilà, il y a tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, voilà, tout devant derrière. Ok.
À la plage arrière de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Manuel Liberti, j'ai 57 ans, je suis tout jeune retraité. J'ai passé 35 ans et un peu plus à pratiquer l'activité de pêche et de conchyliculture sur l'étang de Thaux. Je suis issu de deux lignées de marins, une bretonne et une céto-italienne. Mes deux autres origines, j'ai l'habitude de dire que je suis un quatre quarts. Je suis un quart espagnol républicain, un quart italo-cétois, un quart breton, un quart auvergnat. Voilà. Et j'ai vécu toute ma vie. Je suis né ici, sur les bords de l'étang de Thaux, à Sète. Hein, et j'y ai fait toute ma carrière professionnelle durant un peu plus de 35 ans. Alors, j'ai pratiqué plusieurs types de pêche, puisque les pêches en lagune et en bande côtière à petit métier, ça, c'est une quarantaine d'arts différents, donc j'ai pratiqué quelques-uns. Et j'ai fait aussi un peu de conchyliculture dans le cadre de l'accession au métier de la conchyliculture par l'intermédiaire de la coopérative des Saint-Port, qui est une coopérative de pêcheurs créée dans le cadre du remembrement conchylicole sur l'étang de Thaux et qui avait pour but de distribuer aux pêcheurs en compensation des pertes de plan d'eau à la pêche, des tables conchylicoles pour agrémenter leurs revenus liés à la perte des espaces de pêche. Ce système perdure, il a 50 ans aujourd'hui, c'est toujours la coopérative des Saint-Port qui le gère, et c'est une entrée pour une sortie en part de capital, sans spéculation aucune, ce qui permet, sans être, tenu par l'argent, de pouvoir profiter d'un outil de travail toute sa vie et de le restituer tel quel à un jeune. Dans les conchyliculteurs, il peut y avoir des ostréiculteurs. L'ostréiculteur élève des huîtres. Le mytiliculteur élève des moules. Le vénériculteur élève des palourdes. Voilà. Alors, dans les pêcheurs, il y a des pêcheurs à pied, il y a des pêcheurs en bateau, à bord de bateaux petits métiers, de bateaux côtiers ou de métiers du large. Il y a des thoniers qui pêchent du thon, avec un engin qui s'appelle la Seine, qui est un filet encerclant. Il y a les chalutiers qui, eux, traînent un filet derrière, c'est un art traînant. Et dans les petits métiers, vous avez des petits arts traînants, des arts dormants, en masse, des métiers de l'hameçon, avec des palangres, des crocs, etc. Donc il y a toute une palette de métiers. Et il y a ensuite les métiers de cueillette à main, qui vont être avec des gens immergés ou des gens à pied qui vont pêcher les palourdes, les couteaux, les coquillages fouisseurs. Et d'autres qui vont pêcher des coquillages agglomérés sur des digues, des ouvrages et autres, tels que les moules ou les huîtres. Et alors là, on utilise des grattes, des râteaux. Donc des activités de pêche sont multiples. On a calculé qu'il y avait à peu près 42 arts différents en région Occitanie, pratiqués encore il y a peu, sur environ à peu près 72 points de débarquement ou lieux où il y a plus de 2 ou 3 pêcheurs. Et en région, il y a à peu près aujourd'hui encore 650 à 700 armements à la pêche. Il y a à peu près 450 entreprises conchylicoles. Ils sont répartis essentiellement sur l'étang de Thaux et un peu sur l'étang de Salses-le-Cat. Et en termes de port de pêche, vous avez des grands complexes lagunaires du côté du Gros du Roi autour des étangs de Camargue, après autour des étangs de Palavas. Vous avez ensuite Thau, qui est quand même une lagune importante avec 7500 hectares. Ensuite, vous avez d'autres complexes vers l'ouest, notamment autour de Vendres, Bages, etc. Et ça finit à Canet, au pied des Pyrénées, avec l'étang de Canet, sachant que du côté de Port-la-Nouvelle, donc Bages-Sigean, ou du côté de Gruissan, il y a quand même des complexes en lagune importants.
On est pas mal. Bravo!
Côté façade maritime, il y a des ports un peu partout. Ça va de Port-la-Nouvelle, Saint-Cyprien, Barcarès, Locate, Valras, Agde, et on remonte Gruissan, et on remonte jusqu'au Gros du Roi en passant par Sète, Frontignan, Palavas. Voilà, alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche, c'est pas une activité de sauvageon où tout le monde fait n'importe quoi avec n'importe qui. C'est une activité qui est très très réglementée, que ce soit au niveau de la puissance des moteurs, que ce soit au niveau de la jauge des navires, que ce soit au niveau du calibrage des engins. Dans chaque secteur, pour chaque espèce, on a une réglementation qui correspond, qui est draconienne, et qui fait qu'on a perduré dans le temps, quoi. Quand nous étions seuls dans les lagunes et la bande côtière et le golfe du Lion, on aurait pu continuer comme ça des millénaires, sans être là aujourd'hui. Les espaces sont très convoités, que ce soit sur la partie terrestre ou même en mer au large, avec maintenant des projets industriels comme l'éolien et compagnie. Ouais. Il faut savoir que si on s'est autant structuré, organisé dans le cadre de la gestion depuis des siècles et des siècles ici, c'est qu'on n'a pas l'avantage de l'Atlantique ou du Nord, c'est qu'on est dans des petits espaces. On pêche ici, en Méditerranée, sur de tout petits espaces. Les lagunes, en Occitanie, c'est 42 000 hectares, ce qui n'est pas sur leur surface globale et entière. Et le golfe du Lion, c'est, qui va donc de la frontière espagnole quasiment jusqu'aux portes de Marseille, c'est 15 000 km carrés. C'est très peu. Parce que ces espaces-là sont travaillables à main d'homme ou avec nos engins à nous, occitans, mais le restant de la Méditerranée est très profond. En fait, ce que personne ne perçoit, c'est que la Méditerranée, c'est en fait une grande cuvette où il y a des petits balcons, les pêcheurs sont sur les petits balcons, et la grande cuvette, elle fait 1,5 km en moyenne de profondeur. C'est ça, la Méditerranée. C'est une bassine profonde d'1,5 km. Et nous, au-delà de plusieurs centaines de mètres, on ne peut plus travailler. On n'a pas une typologie d'engin, ni à main, ni à d'homme, pour pouvoir travailler. Donc on est ramassé sur des petits espaces qu'on a dû très tôt, dans le temps, gérer, partager et organiser.
Il n'y a pas de chalut pélagique ici, par exemple.
Il n'y en a plus depuis qu'a disparu la sardine à anchois. Là, c'est une inconnue de la pollution. En Italie, en Espagne, il y a de la sardine qui vient grosse et de l'anchois qui vient gros. Dans le golfe du Lion, il n'y a plus une sardine ni un anchois qui vient gros. Et alors, les études qu'on a fait mener il y a peu par Ifremer, une étude notamment qui s'appelle Mona Lisa, fait état que le plancton, la nature même du plancton a été modifiée dans le golfe du Lion depuis une quinzaine d'années. Il est tellement petit qu'il ne nourrit plus assez l'anchois et la sardine. L'anchois et la sardine sont là, mais en très petite taille. Ils sont atteints de nanisme lié à la nature de leur alimentation. On aimerait trouver la solution. Parce que c'était quand même à l'époque 30 à 40 000 tonnes de production qui pourraient venir soulager l'effort de pêche par ailleurs sur d'autres espèces. Plus on a d'espèces à pêcher, moins on se concentre sur une ou sur quelques-unes, et plus on a un état de gestion de la ressource qui est approprié. C'est-à-dire qu'on prélève un peu de chacune, et pas totalement. Et l'effort, on ne le pratique pas sur une ou deux espèces. Alors, à comparer, par exemple, le golfe du Lion, c'est 5 fois plus petit un espace travaillable, avec les lagunes comprises, que la seule Manche. C'est 40 fois plus petit en espace travaillable que la mer du Nord. La mer du Nord, elle fait à peu près 90 mètres de profondeur sur son ensemble, alors qu'elle est 5 fois plus petite que la Méditerranée, la mer du Nord. Et par contre, elle est 40, en termes de pêchabilité pour nous, c'est 40 fois plus. Et la Manche, c'est 63 mètres de profondeur. Alors bien évidemment, ça illustre bien le fait que quand c'est trop profond, c'est pas pêchable. Oui, il y avait des techniques industrielles, mais nous, on n'est pas des industriels, nous, de la pêche. Les pêcheurs occitans, c'est de la pêche artisanale à 99,9%.
Question, les quotas sur le thon rouge, ça a déjà quelques années qu'ils ont été établis. Est-ce qu'on commence à voir des conséquences positives de... C'est-à-dire que les populations de thon recommencent à croître.
Il y a plusieurs facteurs. Les pêcheurs occitans se satisfont de la situation. Ils ne veulent pas qu'on augmente les quotas de pêche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un équilibre à tenir sur les marchés, en fonction du prix et du temps de travail. Plus le prix baisse, plus on va avoir. Pourquoi pêcher 5 kg de poisson si on peut vivre avec 10 kg ? Donc c'est la philosophie actuelle. Des pêcheurs occitans en matière de thon rouge, c'est-à-dire ne pas développer à tout berzin les quotas, comme ça a été fait il y a 30 ans en arrière, au nom de l'équilibre des ressources halieutiques. On a décidé de tonnes de quotas de pêche, un coup à Kadhafi quand il venait rencontrer Sarkozy avec ses Amazones dans le jardin des Tuileries, un coup à l'Algérie, un coup au Maroc, un coup à d'autres pays qui n'avaient pas d'usage.
Donc des licences.
Des licences, des autorisations, des quotas de pêche. La Slovénie, etc. On a donné des quotas de pêche par milliers de tonnes à des pays qui n'étaient pas en capacité de pouvoir les pêcher parce qu'ils n'avaient pas la flotte, ils n'avaient pas les marins, ils n'avaient pas les entreprises spécifiques à ces activités-là. Donc Total, ça a été un jeu de dupes. On a fabriqué des sociétés dans ces pays qui appartenaient aux cousins... du colonel, au cousin du capitaine, au machin, etc. Et en fait, c'est d'autres flottes. Ils sont venus prélever ces quotas distribués à ces pays-là. Alors nous, on a été, pour certains, en Libye, mais vous avez la Turquie qui a été ailleurs, l'Italie qui a fait la même mise sur la Slovénie, etc., etc. Et en fait, au nom du partage des richesses, on a... organiser la surpêche en donnant des quotas à des pays qui n'étaient pas en capacité même d'aller pêcher, mais qui le refilaient à d'autres, etc. Tout ça sur un marché porteur et très attractif qui était le marché japonais, et exponentiel, et la machine s'est emballée. Le fait est que, on en a payé les conséquences, ça a déséquilibré fortement le ratio pêche-production, et il a fallu prendre des mesures de rétorsion. Les mesures de rétorsion ont été un serrement de vis au niveau des quotas, etc. Aujourd'hui, il y a plus de gendarmes à bord des thoniers seineurs que ce qu'il y a dans les rues de n'importe quelle ville de France. Hein. Et voilà. Donc, mais ça nous convient. Ça convient à tout le monde. Bon, il faudrait qu'il y ait un peu plus de petits métiers qui accèdent à la ressource. Mais ça s'est amélioré. On a aujourd'hui, je crois... aux environs de 140 petits métiers qui ont accès à la ressource thon rouge en région Occitanie. On aimerait qu'il y en ait un peu plus, on travaille à ça. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait une désorganisation complète de la structuration du marché. Parce que s'il y a une désorganisation complète de la structure du marché, ça veut dire un rabougrissement des prix, ça veut dire qu'à terme, les gens auront besoin de plus pêcher pour gagner leur vie. Et c'est encore un nouvel emballement qui pourrait se profiler. Le deuxième truc sur le thon rouge dont il faudrait quand même parler, c'est le réchauffement climatique. Et on a aujourd'hui, en bande de côtière, etc., nous, chez nous, en bande de littoral, des difficultés sur certaines espèces. Mais le réchauffement climatique, il produit aussi des magies. C'est-à-dire qu'on a un retour, par exemple, du thon rouge jusqu'en Norvège, une recolonisation de cette espèce sur l'Atlantique Nord. On a le pouffre. Ce qu'on appelle le pouffre, nous, ici, c'est le... Merde, j'ai tellement l'habitude de dire le pouffre. La pieuvre.
Le poulpe.
Le poulpe.
Ouais.
Le poulpe qui se met à coloniser et qui gagne plusieurs mille marins par an parce que les eaux se réchauffent. Hein. Donc on a un certain nombre de phénomènes qui font que, par endroit, on a un abaissement du niveau de la ressource halieutique et, sur d'autres endroits, un développement de certaines ressources halieutiques. Hein. C'est un déséquilibre.
Il y a le danger des espèces invasives.
Le crabe bleu est un exemple. On pourrait citer moult et moult exemples ici ou là qui font que on a les espèces en rivière. On a le silure, mais on a aussi l'écrevisse californienne, hein, etc., etc. Et ça fait des dégâts colossaux quoi, sur la biodiversité. C'est terrible. À voir, c'est que ce qu'on croyait inéluctable en termes d'équilibre, on voit bien depuis 20 ans, aujourd'hui, que ce soit la pression humaine sur les milieux, que ce soit le réchauffement climatique, ont des incidences certaines sur nos activités. Parce que il n'y a plus de continuité écologique, parce que il y a une modification de la biodiversité, parce qu'il y a une modification des paramètres physico-chimiques de l'eau. Et donc toutes ces conditions, plus une croissance exponentielle de l'imperméabilisation des sols, de multiplication d'eau usée à traiter, où on ne traite pas le médicamenteux, ou un certain nombre de polluants, plus les populations augmentent en bande côtière et littorale, comme autour des fleuves, et plus le réceptacle, c'est-à-dire la bande littorale côtière et les lagunes et la mer, sont polluées. Et là, ça lié au réchauffement climatique, la modification des températures, des taux de salinité, des périodes de sécheresse importantes qui diminuent les apports dans le milieu, parce que l'eau douce dans le milieu marin est un apport essentiel à la vie et au développement de la vie. Tous ces paramètres réunis font qu'aujourd'hui, on a des métiers de la pêche et de la pisciculture fragilisés et en grande difficulté. Et si on n'inverse pas les choses, on pourrait très bien imaginer une mer et des lagunes sans pêcheurs et sans conchiliculteurs à court terme. Je veux dire, on en est là et il faut en avoir conscience.
Vous l'avez vu clairement?
Ah oui, on l'a vu. Le décalage des saisons.
De votre carrière.
Décalage des saisons sur la migration des poissons, okay. Disparition d'espèces, apparition d'espèces. On peut citer moult exemples comme ça de choses qui sautent aux yeux du gars qui travaille tous les jours sur l'eau. Quoi, hein. Moi, quand j'étais minot, on attaquait la pêche à la dorade, puisqu'il y a une migration de dorade entre la lagune et la mer, au 1er octobre. J'ai fini l'année dernière, ou l'année d'avant, au 22 novembre. Ça fait 50 jours de décalage. C'est colossal. Il y a des algues dans l'étang, que mon grand-père, alors qu'il y travaillait, lui aussi, n'a jamais vu. Il y a le crabe bleu, ici ou là, vous en avez dû en entendre parler, dans les lagunes où il y a encore de l'eau douce qui se développe à profusion. Voilà, il y a tout un tas de phénomènes, des disparitions d'espèces. Ici, on n'a plus de pichiline, plus de clovis, l'huître plate a disparu, le coquillage de fond, on n'en a quasiment plus, la palourde qui est en grande difficulté. Donc tous ces éléments font que, ben oui, le pêcheur, le conchiliculteur que vous allez rencontrer, quel que soit son lieu de travail, il va vous dire, ah ben oui, le réchauffement climatique, ce n'est pas une illusion de l'esprit. La pollution, ce n'est pas une illusion de l'esprit. La pression humaine sur les milieux, ce n'est pas une illusion de l'esprit. On la vit au quotidien. Et ça a des conséquences importantes en termes de complexification de notre activité et de nos économies. Et je vous le disais tout à l'heure, les temps de taux, c'était jusque dans les années 80, à peu près 1000 pêcheurs licenciés, c'est aujourd'hui 110. Ça veut dire qu'on a laissé 810 personnes sur le carreau. Et ce n'est pas pour autant que les 110 en sortent mieux. Qu'ils profitent de la manne laissée par les autres. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont en difficulté aussi.
D'accord. Ce n'est pas une intensification. Le boulot non. Que faisaient 1000 personnes, c'est...
En lagune, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des règlements issus du XIIIe, XIVe, XVe siècle lors de l'instauration des prud'homies. On a ensuite une codification générale qui s'est faite soit sous l'Empire, soit sous la Deuxième République, hein, avec des traités de 1852, 1859. C'est nos livres de chevet à nous. On n'a rien changé. Je travaille avec les mêmes engins que travaillait mon grand-père. La seule chose qu'on a fait évoluer, c'est qu'on ne se déplace plus à la rame ou à la voile, on a un petit hors-bord derrière le cul du bateau. Donc, dire qu'on pourrait pêcher ou avoir une capacité de pêche à 110 aussi importante que 1000, c'est faux. On est dans de la cueillette de coquillages, pêche de poissons, avec des engins et des filets cadastrés, avec des licences et des quantités de matériel à utiliser, à ne pas dépasser, etc. etc. Tout est codifié, etc. Nous, on pensait qu'on laisserait à nos enfants la pêcherie que nous ont laissé nos grands-parents. Or, tous ces nouveaux paramètres qui font pression sur le milieu ont complètement bouleversé la donne. Et aujourd'hui, on est dans une situation, oui, où à terme, on pourrait voir disparaître tout un tas d'activités du littoral, au profit du tourisme et autres activités plus en vogue, la spéculation immobilière, la gentrification des villes et des villages autour du littoral, c'est pas une illusion de l'esprit. Aujourd'hui, on a même des pêcheurs et des conchyliculteurs qui ne peuvent plus vivre au bord du littoral. Ils sont obligés d'aller habiter dans les terres pour pouvoir accéder à leur outil de travail.
Et donc, du coup, les poissons et les coquillages qu'on va trouver en supermarché, ils vont venir des quatre coins du monde.
Oui.
S'il y a beaucoup moins de production.
Oui, local. Mais pas que. Mais parce qu'on est dans ce système aujourd'hui où on a fait des tests, nous, de la mondialisation dans la marine, avec la marine marchande. Ah oui. On a débarqué les marins français avec des statuts particuliers qui dataient, pour certains, de Colbert. Hein, on parle de la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle, pour embarquer les marins venus de pays tiers, en voie de sous-développement ou en voie de développement, je ne sais encore, tout ça pour gagner sur la masse salariale. On a fait le test avec le pavillon de complaisance, etc. etc. On a liquidé un peu ou prou la marine marchande. Ce qu'on a fait avec la main-d'œuvre, on ne peut pas le faire en important de la main-d'œuvre et produire ici. Et bien, on l'a fait en important les produits, et puis voilà. Et aujourd'hui, vous avez une concurrence faussée en permanence sur tout un tas de productions. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi acheter un kilo de moule d'ici qui a un coût de production d'1,50€, 1,60€, alors que vous pouvez importer d'Espagne, d'Italie ou de Grèce à 50-60 centimes ? Le commerçant, il faut savoir, c'est que 80% du commerce est aux mains des grandes et moyennes surfaces. Et le commerçant, sur un kilo de produits à vendre, s'il peut gratter 1€ du kilo, et bien il va le gratter, il va se le garder et le mettre dans sa poche. Le producteur local, il n'en a rien à foutre.
Marine, portrait de Jean de Mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons.